Alors, dans la différence qu'il y a entre la nevoie de Moshe et la nevoie au sens habituel du terme, il y a la chose suivante. Akadosh Baruch Hu levado ou haemet amuchletet. Akadosh Baruch Hu est le emet absolu. Il est la vérité absolue. Comme on l'a vu dans le premier Ikar. Donc, yediat retsono, il est maase yediat aratson amiti ayachid. Donc, connaître sa volonté, connaître la volonté d'Hachem, c'est connaître la seule vérité, la vérité de sa volonté. Kedei lehavir emet yechida, pour transmettre cette vérité qui est une vérité unique, il faut un chemin qui soit sans aucune possibilité de sortir de la voie de la vérité. Un tel chemin n'existe que sous une seule, enfin, il n'en existe qu'un seul, en fait. Le Or Sameach, il a amené au nom de son grand-père, Amchanan Kohen, que Echad Shera Moshe Rabbeinu, Achar Shera Moshe Rabbeinu, Tmunat Kvod Hashem Itbarach, Panim El Panim. Après que Moshe Rabbeinu ait vu ce qu'Hashem lui a donné à voir, la gloire divine, alors il n'avait plus de choix. Moshe Rabbeinu n'avait pas de Bechira, il ne pouvait pas ne pas faire, parce qu'il était, il était sur ce chemin unique de la vérité absolue. Il n'avait pas la possibilité, Moshe Rabbeinu, il n'avait plus la possibilité.
Plus la possibilité de quoi ?
De ne pas suivre exactement la volonté de Hachem. Donc il n'a plus de Bechira, il n'a plus de libre arbitre. Lo yakoach enoshi bechiri meurav bektivat haTorah. Donc Moshe Rabbeinu, la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Donc il n'y a absolument aucune dimension humaine, c'est-à-dire avec une possibilité de faire autre chose. Quand on écrit, il écrit la Torah, la Torah, c'est cette unique volonté d'Hachem. Et c'est ça la forme de prophétie absolue que Moshe a reçue. Il est mekabel, comme on dit, livré Elokim Chaim. Il accepte, il reçoit les paroles du Dieu vivant, si vous voulez, sans que il perde quoi que ce soit. Où il se torde quoi que ce soit. Parce que qu'est-ce qui fait que une volonté, une pensée ou une volonté peut être déformée? Bien, c'est justement la condition humaine qui pense ou qui transmet ces choses-là. Ça vient de l'humain. C'est l'humain qui introduit une possibilité de dévier, en quelque sorte, sans cette qualité humaine, en fait. Or, d'une certaine façon, ce que disait son grand-père de Or Sameach, quelque part, c'est que il lui manque une qualité humaine, finalement, à Moshe Rabbeinu, s'il n'a plus de Bechira.
Et pourquoi il aurait plus de Bechira?
Parce qu'il a eu un contact avec Hachem qui était tellement impressionnant, si on veut, que c'est comme si ça avait brûlé toutes les sorties, les fausses sorties, quoi. Alors, je ne sais pas. Est-ce que on va d'abord regarder un peu ce qu'ils ajoutent ici. Et alors il dit, le Nefesh Hachaim, il dit la même chose. Donc Charles Guimel, avec une Guimel, il dit la même chose. Voilà la chaîne du Nefesh Hachaim. Aval Moshe Rabbeinu haïta asagat nevuato bechinat Hashem haetzem amiyuchad avaye baruch. D'accord, ça veut dire ce à quoi Moshe Rabbeinu a accédé. Donc, grâce à sa prophétie, il a accédé à Hachem lui-même, en quelque sorte. Et la chen lo haya shum koach chotzetz ifne or asagat nevuato. Et c'est pour ça qu'il n'y avait rien qui a pu se mettre en travers ou déformer un peu ce que Moshe avait compris. Ça, c'est ce que dit Nefesh Hachaim. Il en parle plus longuement, parce que là-bas, Nefesh Hachaim, il discute aussi des niveaux relatifs des Avot et de Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui est plus haut, Moshe Rabbeinu ou bien les Avot? Donc, c'est ce que le Rambam a dit ici. Que l'O Manao Monea Gufani, Moshe Rabbeinu, il n'y a aucun empêchement venant de son corps qui l'a empêché d'avoir accès complètement à Hachem. Il n'y a aucun manque, ni petit, ni grand. Et il n'y a même pas de possibilité d'imagination, en quelque sorte, chez Moshe Rabbeinu. Veine benetinat efsharut le navi acher. Lorsqu'on a donné une possibilité à un autre prophète, aux autres prophètes, la'alot le madrigat הדבקות הגמורה תינתן גם האפשרות לחלוק ולטעון כי הנביא הראשון השיג השגה חלקית. וממילא אף אחד מן הנביאים לא יוכל להיחשב כמדבר פנים אל פנים עם השם יתברך. בזה יסתם הגולל על האמונה ויגלות רצון השם יתברך בצורה ברורה בעולם ולא יאמינו אלא בהשגות מאורפלות וחלקיות בלבד ולכן הקדימה הקדוש ברוך הוא תקופה למכה ועשה למשה רבינו את הפרסום הגדול ושם עליו חותמת נצחית כי הוא יהיה אב לנביאים לקודמים, לפנים ולבאים אחריו. Il dit ici que les autres, enfin, disons, prenons un autre prophète, peu importe de qui il s'agit, eux, ils n'avaient un accès que partiel, en quelque sorte, à la vérité de la chaîne, à la volonté de la chaîne. Donc personne ne pouvait être considéré comme parlant panim el panim, face à face avec Hachem. Cette expression du face à face, ça veut dire, il faut imaginer, l'expression face à face, si je comprends bien, elle veut dire que l'émetteur est parfait et le récepteur est parfait. D'accord ? Ça veut dire, l'émetteur est parfait, il donne tout ce qu'il est capable de donner, et le récepteur en face, il reçoit tout ce qui a été émis.
Il n'y a pas de déformation.
Ouais, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de trouble, de peu importe. Pardon ?
Distorsion.
Aucune distorsion, aucun élément qui viendrait fausser un petit peu le rapport. Et donc, l'idée que la volonté d'Hachem pourrait se dévoiler, enfin peut se dévoiler de façon absolument claire dans le monde, elle est impossible tant qu'on n'a que des Nevi'im autres que Moshe Rabbeinu. Parce qu'eux, par définition, ils ne peuvent pas. Donc, eux, ils n'auront, et nous, de même manière, on n'aura que l'accès à des connaissances un peu floues, partielles. Et pour que, alors dans ce cas-là, si on ne connaît rien que du partiel, il faut bien qu'on ait quand même une référence. Alors, quand beaucoup, il a donné la référence initiale, c'est Moshe. Il a fabriqué Moshe comme référence initiale. Bon. Éternel, que voilà, personne ne dépassera jamais ça, personne. On ne peut pas se comparer, Birkla, c'est autre chose, mais ça c'est la référence absolue. Atayuvan ki ashvat Moshe Rabbeinu le kol navi acher afilu shekadam lo. Donc on comprend avec ça que d'essayer de comparer Moshe Rabbeinu avec un autre prophète, y compris les prophètes qui l'ont précédé, c'est-à-dire les Avot, tivgom begeder nevuat Moshe que Iroa Khat Pami Vetishlol et Idgaluta Emet Amuchletet Vetsura Brura le Nekol Israël. Si cette comparaison, en quelque sorte, l'idée même de la comparaison, elle est fausse, elle nous fausse complètement les choses. C'est incomparable. Et donc toutes les questions qu'on peut poser, etc., elle tombe complètement parce que la nevoie de Moshe, c'est un type de prophétie complètement différent, qui est la connaissance de la volonté absolue d'Hachem, et donc l'impossibilité de dévier même. D'après tout ça, il faut aussi qu'il y ait dans l'ensemble des Ikarim du Rambam, il faut effectivement des éléments qui nous permettent de construire une connaissance, quelque chose, construire une émouna, c'est-à-dire aussi construire une émouna qui soit telle que on comprenne qu'il faut se plier devant Hachem, se mettre au service d'Hachem. Donc si on ne met pas Moshe Rabbeinu à la hauteur, enfin tout en haut de l'édifice en fait, alors il va nous manquer quelque chose pour nous écraser suffisamment devant Hachem. Donc, celui qui accomplit la Torah, alpi edut, ki kol am Hashem ayun vi'im be'atzmam, que tout le peuple est arrivé à un niveau de prophétie au Sinaï. Le ha'id al nevuat Moshe, shelo haita velo tiye k'mot. Ils sont arrivés, pourquoi est-ce qu'Hachem les a mis au même niveau que Moshe Rabbeinu dans les deux premières dibrot, pour qu'il puisse savoir que oui, ce à quoi Moshe accède, c'est la vérité. Nous, on l'a vécu quelques minutes, mais c'est vrai. pour pas qu'on puisse dire, mais peut-être ce que Moshe a fait, c'était de la magie, etc. Ou bien quelqu'un viendrait après lui pour annuler ce qu'il a fait, annuler ce qu'il nous a enseigné.
Une question, peut-être que ça va s'éloigner de ce qu'on est en train de dire. Pourquoi Hachem n'a pas permis, ou en tout cas que l'ensemble des Dibrotes soit entendu par le peuple?
C'est eux qui n'ont pas voulu. Il fallait pour
c'est
entendre.
Pas, c'est pas un souhait de.
Non, non, pas du tout. C'est un peu ambigu parce que la Torah elle dit au nom d'Hachem que Hachem dit que c'est bien qu'ils aient dit qu'ils ne pouvaient pas continuer. Mais c'est simplement une façon de dire, oui, puisque vous avez ressenti que vous n'étiez pas à la hauteur, c'est bien de l'avoir dit. Mais, plutôt que de faire comme si vous étiez à la hauteur et en fait ça ne marchait pas. Mais c'est sûr que d'après Ramban et d'autres Farshim, si on avait entendu la Sota Dibrot, c'était terminé, je veux dire, on avait réussi. L'histoire des. Il, y avait, il a dit sur Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il n'y avait aucun écran qui empêchait Moshe Rabbeinu. Alors, cette idée des écrans, dans son commentaire qui s'appelle Shmoné Prakim, c'est les 8 chapitres de commentaires très importants du Rambam. Traite au fil de toutes les questions fondamentales aussi, de nouveau. Il explique là-bas cette notion d'écran. Et il dit Yesh minan vim, il y a parmi les prophètes, Mishera et Hashem, Meahore Mechitzot Rabot. Il y en a qui ont vu Hashem, mais derrière un très grand nombre de murs. D'écran. Ou mehem mi sheraou meachare mechitzot muatot. Il y en a d'autres qui ont vu Hachem, pas vu ce qu'on pouvait voir, quoi, mais à travers beaucoup moins de mechitzot. Ça dépendait de. C'est ça qu'on appelle la proximité avec Hachem. Le nombre d'écrans qu'il y a. Qui sépare le prophète de la chaîne. Au point qu'on a dit, chez Moshe Rabbeinu, Ra'a Hashem Yitbarach Acharei Mechitza Achat, que Moshe, lui, l'a vu à travers une seule Mechitza, qui en plus était quasiment transparente. Il y avait une Mechitza, mais elle était Beira, elle était. Akavana Bezea Inyan, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chez Amalot, les qualités. Mehen Maalot Sichliot, il y a des qualités intellectuelles. Mehen Maalot Amidot, il y en a qui sont des qualités d'Emidot, de bonnes Midot. Et aussi les faiblesses, qui sont aussi certaines intellectuelles et de mauvaises Midot. Kulam Hem Mechitzot. Tout ça, ce sont des écrans, des murs, qui séparent l'homme d'Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est séparé d'Hachem? Ben, ça dépend d'une part de notre intellect, des efforts qu'on est capable de faire dans ce domaine, et aussi des midot, des qualités, des défauts qu'on a. C'est pour ça que on dit. On peut faire tshuva et enlever une partie des mechitzot, des écrans, qu'on a mis par notre mauvaise conduite, par exemple, on fait tchouva, ça enlève une partie des écrans. Et donc, c'est ça la proximité avec Hachem.
Mais quelqu'un qui serait limité intellectuellement,
il ne peut pas vraiment s'approcher de l'Hachem. Il y a quand même, dans la relation avec Hachem, il y a une compréhension de certaines choses. Être proche d'Hachem, c'est aussi comprendre. Si vous voulez, de façon idéale, il faudrait avoir sur le monde le regard d'Hachem sur le monde. Si on voulait vraiment comprendre le monde, comprendre les choses, ben il faudrait savoir comment Hachem voit, enfin, pas comme ça, comment lui, il évalue le monde. Bon, il a créé un monde, et il nous a laissé les libertés, etc. Et maintenant, ben voilà, il regarde ce qu'on fait. Et donc, nous, on a aussi un regard sur ce que nous faisons. Mais on sait très bien que, suivant qui on est, à quel niveau intellectuel, spirituel, etc., on est, ben, on regarde les choses différemment. Il y a des gens qui vont regarder les choses et interpréter ce qui se passe dans le monde de façon élémentaire, d'autres verront d'autres choses plus profondes, ils verront des fils conducteurs entre tel ou tel événement, etc. Tout ça, être capable de faire ces liens, etc., ça demande une puissance intellectuelle aussi.
Mais non, je disais par rapport à peut-être qu'il y a des gens qui ont des midotes, enfin c'est pas peut-être, je suis très très fort, qui ont un rapport au monde pas intellectualisé de par leur niveau social, etc., enfin bref, et qui pour autant sembleraient avoir un rapport au monde fait de chesed, de...
C'est vrai, je ne sais pas, hein. J'ai lu avec vous le fait qu'il parle à la fois des écrans qui viennent du cerveau, qui viennent des midotes. Ouais. Maintenant, comment ça joue l'un avec l'autre, ou l'un sans l'autre, ou ça, je ne sais pas.
C'est un peu élitiste.
Pardon ?
C'est un peu élitiste.
Oui, ça peut. Enfin, c'est sûr que c'est élitiste, mais je crois que la Torah, elle est. Mais, si vous voulez, c'est aussi élitiste les midotes.
Oui.
Il n'y a pas que l'intellect qui est élitiste. Des bonnes midotes, c'est aussi élitiste. C'est pas rien d'être capable de bonnes midotes. D'avoir des bonnes midotes, d'avoir travaillé.
Non, mais on peut avoir, ça peut être élitiste en termes d'effort, en termes de. Je parle en termes de.
Je pense que sans effort, on est dans un monde où sans effort, c'est pas possible. Quoi. On n'y arrivera pas. Alors, il dit, c'est toujours le Rambam qui parle dans les Shmoné Prakim. Il dit, Veda, shekol navi, lo nitnava, ela, achar shayulo, kolama, lot asikhliot. Les prophètes, ils n'ont pas pu prophétiser s'ils n'ont pas les qualités intellectuelles et les midot qu'il faut. Le seul prophète qui est un pourri, c'est Bilam. Ve'en mitnaye anavi sheyu etzlo kol ha'malot ha'midot. Ils ne doivent pas avoir toutes les malot dans les midot, parce que ça c'est trop difficile, semble-t-il. Toutes les qualités, toutes les bonnes midot, toutes leurs midot parfaites, ça semble-t-il, d'après Rambam, c'est pas vraiment nécessaire, peut-être que c'est quasiment pas possible. Yada Moshe Rabbeinu, shelo nishara lo mechitsa, shelo isirota. Moshe Rabbeinu savait qu'il avait enlevé tous les écrans. Rinish le mou bo amalot amidot kulan, ve amalot asirliot kulan. Jusque-là, c'est une citation du Rambam. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici quand il dit que Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem sans sans en passer par les malachim. Vous vous souvenez, il avait dit que Moshe, il n'avait pas besoin d'en passer par les supports qui amènent sa parole devant Hachem, qu'on appelle les malachim. Ça voulait dire Keneged kol pritut bemidot anavi nitzach tivuch shel malach bekabalat ha-shefa hanvui. C'est comme ça. Les prophètes ordinaires, tous les manques, tous les défauts dans les midot, par exemple, chez un prophète, ça se traduit par la nécessité, pour que ce prophète puisse néanmoins recevoir le flux divin, qu'il y ait un malach intermédiaire. Il est obligé d'en passer par un malach intermédiaire. Si vous voulez, c'est sans passer par une voie, mais quand Hachem a pardonné le veau d'or, il a dit tout de suite à Moshe, il lui a dit, je vais envoyer un malach qui va vous guider. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez fait le veau d'or, d'accord, vous avez dégringolé. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir de lien direct avec moi. Donc, si vous voulez avoir un lien avec moi, il faudra en passer par un intermédiaire. Vous devrez avoir un malach qui va vous guider, vous n'aurez accès qu'à ce malach. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a dit, si c'est comme ça m'intéresse pas. Moshe Rabbeinu, il a dit, ou bien tu restaures notre lien direct avec toi, ou alors tu peux m'effacer de ton livre. Je marche pas. Et Hachem m'a cédé.
Il y a quand même eu le Mishkan après.
Oui, ça c'est que Hachem a cédé. Ceux qui disent que le Mishkan il vient pour réparer le veau d'or, ben c'est justement Hachem a cédé et il a remplacé. Le Gaon Vilna a dit comme ça. Le Gaon il dit qu'effectivement le Mishkan c'est un intermédiaire.
Voilà, oui,
c'est une forme de malach.
Oui, c'est ce que j'avais.
Oui, alors c'est très fort. Ça veut dire, si on entend ça, on entend que quelque part le Mishkan ici c'est aussi un pis-aller, si vous voulez, mais on ne pouvait pas faire autrement. Vu le degré de la dégringolade qu'on a subi avec le veau d'or, on ne peut pas avoir un accès direct. Donc Hachem nous aide en nous donnant le Mishkan. Mais c'est comme on a déjà dit souvent, c'est un cadeau, mais c'est un cadeau qui n'a pas que des côtés positifs. Puisqu'après, ça va se développer en Beth Amikdash, et Beth Amikdash, c'est le risque que ça représente. Il y a le risque que ça devienne un temple. Ça devienne un intermédiaire au sens de la Avodah Zara, quoi. Maintenant, le Navi, parce que tout le monde Navi après, plus il va travailler sur ses midot, plus il va les purifier, ses midot, moins il aura besoin d'intermédiaires pour pouvoir recevoir le flux divin de Hachem. Moshe Rabbeinu aya mezukach de midotav ad shelo nitzrach od l'shum malach. Lui, il n'avait pas besoin de malach, mon cher Abbé. Pourquoi? Il a tellement travaillé sur lui, il n'avait pas besoin de malach. Alors, ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que mon cher Abbé, il a fait bénéficier tout le peuple d'Israël de sa situation. Parce que lui n'avait pas besoin de malach, il dit, ok, ça passe par moi je ne suis pas d'accord. Si le peuple d'Israël ne peut pas bénéficier du sans malach, zéro malach, je ne marche pas.
Mais c'est vraiment dû au travail de Moshe sur lui-même, cette acquisition de...
Alors, c'est à la fois un travail de Moshe sur lui-même, il y a les fameux Midrashim qui racontent que ce roi qui voulait savoir qui était Moshe, qui a envoyé il y avait une image et l'autre il a fait une analyse qu'on peut faire de physique de Moshe pour savoir ce qu'il était, etc. Et comme vous savez, ça a donné des résultats désastreux jusqu'à ce que le type, le roi en question, il vienne lui-même demander à Moshe que. Il a vu que Moshe, il avait vraiment une tête de gangster. Alors, il lui dit, comment c'est possible? Il dit, mais tu crois que j'ai travaillé. Ma tête, elle est comme ça, mais j'ai travaillé. Donc, bon, ça n'a pas changé, semble-t-il, son aspect extérieur. Bien qu'il ait travaillé, ça ne lui a pas donné une figure d'ange. Il reste toujours avec sa figure de gangster. C'est un peu étonnant. C'est un drôle de midrash. Moshe, donc, le Rambam dans le Moreh Nevuchim, deuxième Chélek, à partir de chapitre 32, il dit là-bas qui ne voit Moshe nivdelet, il ne voit kolan nevim, que le niveau prophétique de Moshe est différent de tous les autres, de celui des autres prophètes. Bemauta, dans son essence, chez Enlo ou le Sharan Vim, Geder Meshutaf Klan. Ils n'ont pas de point commun. Ils sont incomparables. Acheu Nimna, mi ledaber al nevoat Moshe Klan. Au point que dans le Moreh, il ne parle pas du tout du niveau de prophétie de Moshe. Il dit Omnam nevoat Moshe Rabbeinu lo adaber ba. Quant à la prophétie de Moshe, je n'en parlerai pas. Dans Beilo Aprakim, dans ces chapitres, Afilu Mila Achat, j'en dirai même pas un mot. L'obé biour velo bermisa, ni explicitement, ni même par allusion. Veu shechem navi omnam yomar etzli al Moshe val zulato besipuk. Bon, alors c'est vrai qu'on utilise le même mot pour la nevoie de Moshe et celle des autres prophètes. Il dit j'utilise le même mot, mais on comprend très bien qu'il faudrait un autre mot puisque la chose est complètement différente. Alors comment tu peux l'appeler prophète, c'est-à-dire. Dans le Minchat Chinuch, Iksha, il a posé la question, Alma Shekatab Rabbeinu, ce que Rambam a dit dans les Prot Yisodei Torah, de kol haover al divrei navi, shelo la'asot kidvarav, chayav mita bidei shamayim. Il dit donc, si quelqu'un n'obéit pas au prophète, il est en vérité chayav mita bidei shamayim. C'est une peine de mort, mais ce n'est pas une peine de mort qui est donnée par un tribunal, mais par un tribunal céleste. Et il dit kol mitzvat ase sheba Torah, she'en ba'em onesh. Vous savez, les mitzvot ase, elles ne sont pas sanctionnées. C'est-à-dire la Torah, elle te dit, par exemple, tu dois manger la matzah le soir de Pessah. Et si j'en mange pas, tu n'as pas mangé, tu as raté une occasion de t'élever, c'est tout. Mais il n'y a pas de sanction, sauf les deux que tout le monde connaît, qui sont Pessah et Mila. Là, c'est même carette. Mais, alors...
Si tu ne fais pas faire la Mila à ton fils, c'est...
Non. Si toi-même, tu ne fais pas la Mila... Parce que l'obligation de la Mila, elle est sur chacun d'entre nous. Seulement, à l'âge où on l'a fait, on n'est pas capable de se prendre en charge. Donc c'est une mitzvah qui incombe en fait à l'enfant, mais qui est à la charge du père. Si le père est défaillant, voilà, il ne fait pas le job, Quand l'enfant il devient majeur, ou quand il est capable de le faire, c'est à lui, à Eldoeg, de se faire faire la vie.
Il n'y a pas de sanction pour le père.
Non. Non, parce que, bon, c'est un méchant garçon, mais... Donc les mitzvot assez chez Batora, chez En Baem Onesh, il n'y a pas de sanction. A Over al Divrei Anavi, Adon Anvi, Moshe Rabbein. Il dit, mais celui qui ne respecte pas la mitzvot assez, il transgresse. Qui est-ce qui nous a ordonné les mitzvot assez? C'est Hachem, mais ça passait par Moshe Rabbein. Donc comme c'est Moshe qui l'a dit, on transgresse. La parole de Moshe. Moshe a dit qu'il fallait faire la mitzvah d'assé, donc on a transgressé une parole du prophète, de Moshe. Et par conséquent, ça c'est une transgression, donc on devrait être sanctionné. Tu n'as pas le droit de ne pas suivre le prophète. Et donc, quand tu ne le suis pas, tu as transgressé l'obligation, l'interdit qu'il y avait de ne pas le suivre. Imkein kol haover chayav mita bidei shamayim en esin en lavim she'en bahen malkut. Par exemple, c'est la même chose pour les interdits qui ne sont pas sanctionnés avec des makot, des coups. Lama parat hakatuv be'ezer she'chayav mita bidei shamayim kol haover על איזה דבר עובר על דברי נביא הגדול, אדון כל הנביאים, עליו השלום. ולומר דעונש הוא רק על הנביאים, חוץ משה רבינו, זה דפוק. Et dire que l'interdit de ne pas suivre le prophète n'a été dit que pour les autres prophètes et pas pour Moshe Rabbeinu, c'est un peu difficile. Ça, c'est ce que dit le Minchat Chinuch. Omnam le fi divrei Rabbeinu dans le Moré, en kan dochak. C'est pas de problème. Lui, à partir du moment où Rambam dit que, à la limite, utiliser le même mot, Navi, pour Moshe et pour les autres, c'est presque un abus de langage. Donc, à la limite, quand on te dit tu n'as pas le droit de transgresser les paroles du Navi, ça parle des autres Navim, ça ne parle pas de Moshe Rabbeinu. On a dit que c'est un peu difficile, non, ce n'est pas si difficile que ça, d'après le Moré lui-même, d'après le Rambam lui-même. Yeshkan, il y a deux sortes de Chiyuvim, il faut écouter la parole du Navi. Et on ne peut pas apprendre le Tamidé, mi dîner stam nevoa, le nevoa de Moshe. On ne peut pas inférer quoi que ce soit des dîners qui sont dits sur les autres prophètes, sur le prophète Moshe Rabbeinu, qui n'est en fait, qui n'est pas vraiment prophète, c'est autre chose. Ça veut dire, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la nevoie de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Donc, on ne la voit pas comme une nevoie, mais c'est la Torah. Elle a un autre nom maintenant, c'est une nevoie. Donc, je ne transgresse pas une nevoie, je transgresse la Torah. Et dans la Torah, il a été dit que si on transgresse, c'est-à-dire on ne fait pas une mitzvah assez, on n'est pas sanctionné. Et il n'y a pas de ce chiyuv mita bidei shamayim. Il n'y a pas cette sanction d'une mort décidée par le ciel. Alors, le Rambam dit qu'il y a quatre choses, quatre points sur lesquels la prophétie de Moshe et celle des autres prophètes divergent. Ils sont différents. qui dit là, lui que il s'en occupera de ces quatre points dans le point suivant. Alors on va faire comme lui, on va le suivre. Et on va passer au huitième yesod, au huitième fondement. Alors, le huitième, c'est Torah min haShamayim, que la Torah, elle vient du ciel.
Le septième, c'était...
C'était la nevoie de Moshe. Le sixième, la nevoie. Le septième, la nevoie de Moshe. Et le huitième, c'est Torah min haShamayim. Alors il dit, Ayesod HaShmini, le huitième, Torah min haShamayim, Vehu Shenaamin, Ki Kol HaTorah Hazot, Anetuna Lidei Moshe Rabbeinu, Alav HaShalom, Shehi Kula Mipi HaGvura, Naamin, que cette Torah que Moshe nous a donnée, qu'elle vient entièrement d'Hachem. Kloma, c'est-à-dire, Shehi Igia Elav, Kula Meet Hashem. Inyan Shenikra al Derech HaSheela Dibur. Alors, cet enseignement, cette Torah, Moshe Rabbeinu l'a reçu directement d'Hachem, dans sa totalité. Et quand on parle de cette Torah que Moshe Rabbeinu a reçue, on utilise pour le dire un mot qui est emprunté, ça veut dire qui correspond à autre chose, on appelle ça Dibour. Vaidaber Hashem el Moshe, ça veut dire que Moshe a reçu ce flux de prophétie, on a reçu la Torah d'Hachem. C'est ça que ça veut dire, Vaidaber Hashem el Moshe. Donc, comme ils disent, le Rama midi, le mot Dibour qu'on utilise ici, c'est ce que moi j'appelle un abus de langage. Ça veut dire, on utilise le mot Dibour, alors qu'il ne s'agit pas du tout d'un Dibour au sens habituel du terme. Mais parce que quand tu veux dire Dibour et que le sujet de ce Dibour, de celui qui émet ce Dibour, c'est Hachem, ben, tout ce qu'Hachem fait, c'est, il n'y a pas de mot pour le dire. Donc, on a décidé à le dire, Hachéla, on emprunte le mot Dibour à la langue habituelle, et on appelle ça Vaidaber, parle de Dibour. Ven Yadua, Echegia, et on ne sait pas du tout comment c'est arrivé à Moshe. Et là où Moshe, c'est lui, c'est Moshe, chez Guy, alors Moshe, c'est celui qui a reçu cette parole. Vechihu aya kmo sofer, et là-dessus, il est comme un scribe. Chez Corinne Lo, Vechihu Kotev, on l'appelle, et il écrit Kol meorot hayamim asfurim ve'amitzvot. Et c'est aussi il tient le journal de tout ce qui s'est passé, de toutes les mitzvot. Le sofer, il écrit tout. Ou le fichar, pour cette raison, en hefresh, il n'y a pas de différence entre la phrase ouvne cham kush ou mitzraim, cette phrase de la Torah qui dit les descendants de cham c'était kush et mitzraim, ou bien la phrase shem ishto Matabel, et le nom de sa femme c'était Matabael, ou bien Vetimna Aita Pilegesh le Eliphaz, ou bien que Timna c'est la fameuse princesse qui est la concubine d'Eliphaz et la mère de Amalek, ou bien Anochi Hashem Elokecha, ou Shema Israël, Akol Mipi HaGvura. Tout ça, ça a été dit par Hachem. Akol Torah Hachem, tout ça c'est la Torah. Un Sefer Torah où il manquerait une lettre, dans un de ces psukim, on ne comprend pas très bien pourquoi on a besoin, qu'est-ce que ça peut bien faire que la mère d'Amalek s'appelle Timna. Je pourrais dire, on n'a rien à battre. D'accord ? Ou bien que. Bon. Le nom de sa femme c'était une machine chouette. ça change. Non, mais tout ça, ça a une valeur, parce que tout, un Sefer Torah auquel il manque une lettre dans un de ces mots-là, il n'est pas saoul. Exactement de la même manière que s'il manquait une lettre à Nochi Hashem Elokecha.
Une question.
Oui.
Quand Moshe est descendu,
oui.
Il est descendu avec les nouvelles tables.
Non, ah, le deuxième quoi, oui.
Oui, parce que la
Kippour, d'accord, oui.
La Torah, elle a été donnée à la première ou à la deuxième?
Non, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est... Oui. Les tables, les premières tables et les deuxièmes, elles ont la même chose. Il n'y a que les 10 paroles qui sont écrites. Oui. Sur les premières tables, ces 10 paroles, elles sont ce que nous on appellerait aujourd'hui un hypertexte. Oui. De telle sorte que sur ces tables, il y avait toute la Torah et toute la Torah orale, etc. Tout était là.
Et pas...
Sous forme d'hypertexte, comme là, c'est écrit Etzba Elokim. Vous savez ce que ça veut dire Etzba Elokim? Moi, je ne sais pas. Oui. D'accord, c'est le support des premières tables, on ne sait pas. C'est Hachem qui l'a fait. Je ne sais pas de quoi elles étaient faites. Les deuxièmes, c'est Moshe qui a ramené les tables. Oui. Mais les premières, c'est Hachem qui les a faites.
Bon, on dit qu'elles étaient cubiques et qu'on voyait les quatre côtés.
Oui, que... oui, d'accord. Voilà. Okay, donc, toutes sortes de choses qui sont impossibles. C'est impossible aux humains.
Oui, oui.
Et donc, là, il y avait toute la Torah. Mais ensuite, alors, il y a toujours toute la Torah, enfin, en tout cas, toutes les mitzvot, de façon très allusive, et c'est le travail de Rav Sadia Gaon, qui fait les Hazarot que vous lisez à Shavuot après-midi, où Rav Sadia Gaon, c'est le 10e siècle, il a fait un travail pour montrer, pour ramener toutes les mitzvot à ces dix catégories-là. Oui, il les a mis dans 10 catégories, et à certains livres, il a montré comment, dans de ces 10 commandements, de ces 10 paroles-là, on peut déduire toutes les mitzvot. C'est un travail gigantesque qu'il a fait. Et donc, d'une certaine manière, toute la Torah est là, enfin, en tout cas, toutes les mitzvot. Le Sipour, vraisemblablement pas, et pourtant on apprend beaucoup de choses aussi. Ce qu'on appelle le narratif, si vous voulez, ça, il n'y était pas. Il était dans le Sefer Abrit, dont on a parlé, je vous ai parlé au Menavé Malka. Il y avait le narratif jusqu'à Matan Torah. Plus les mitzvot des Bnei Noir et plus les mitzvot qui ont été données à Mara. Et donc toute la Torah, elle a été ensuite écrite sous forme de rouleau par Moshe Rabbeinu.
Ensuite.
Par la suite, oui. Alors certains disent que c'est au fur et à mesure qu'il a écrit, d'autres disent qu'à la fin il a tout écrit.
Et pourquoi il fallait que ce soit écrit? Admettons qu'on ait une mémoire telle qu'on pouvait retenir complètement tout ce qui a été dit, mais
oui, parce pourquoi que pour est-ce que... C'était... Alors, si c'est un problème, de savoir quelle est la différence entre l'écrit et l'oral, ouais. Si on veut.
C'est vrai qu'on ne fait pas les mêmes drachotes. On fait des drachotes spécifiquement sur l'écrit qu'on ne ferait pas à l'oral. Enfin, mais...
Oui, c'est ça. Mais... C'est pas pourquoi ça devait être écrit, je ne sais pas.
La question de Bernard. La Torah écrite, c'est pour l'émotion, et la Torah orale, c'est pour les intellectuels. Je sais que tu as fait des soins avec ces deux
amis. Et oui, on dit ça sur les Tehillim. David Amelach, il a écrit les émotions, et Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah. Faire Torah des émotions, c'est les Tehillim. Donc, comme il dit, nous, on ne sait pas comment c'est arrivé chez Moshe, mais c'est arrivé chez lui, et il n'y a pas de différence, tout ça, sur le même plan. Akol Torah Hashem Tzmima, tout ça, c'est la Torah Hashem qui est complète. Tehora, elle est pure, elle est Kedosha, elle est sainte, sacrée, et elle est vraie.
Mais pourquoi vous dites on ne sait pas comment c'est arrivé à Moshe?
Ben oui, parce que comment est-ce que ça veut dire? Comment tu sais pas? On ne sait pas comment c'est arrivé à Moshe.
Le moment, comment c'était sur le moment, c'est ça?
C'est oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam qui dit En yadua er igia. On ne sait pas comment c'est arrivé à Moshe. On dit que c'est un dibour. Vaïdaber Hachem el Moshe. Je vais parler à Moshe alors. Comment c'est arrivé? Il Rambam est en train de dire tu ne peux pas dire que c'est un dibour au sens habituel du terme. Alors comment c'est arrivé? On n'en sait rien. On ne sait pas non plus comment arrive la nevoie au prophète. Oui, c'est un flux qui descend, qui vient de chez
nous. Vous voulez dire, on n'a pas décrit, on n'a pas donné la description, donné plus d'éléments, plus de mots, plus de qualificatifs, plus de...
Oui, on ne sait pas. C'est probablement pas arrivé d'une façon naturelle, et donc elle n'est pas descriptive probablement par des mots. Quand tu dis qu'on ne sait pas...
Ou alors, elle n'est pas du tout... Elle n'en rajouterait rien.
Oui, peut-être. Mais bon, ça fait partie de la connaissance.
Oui.
Mais on sait que c'est dans les... Est-ce que c'est bien dans les 40 jours où Moshe Rabbeinu monte au Har-Sinaï? C'est dans ce temps-là?
Là, Hachem lui a enseigné la Torah. Mais ensuite, quand Hachem l'a donné, bon, El Moed, etc., là, Moshe Rabbeinu l'a écrit.
Et la
première mitzvah de faire Kerbot, c'est ça. Moshe Kibel Torah Sinaï, il a reçu la Torah au Sinaï, et il a été Moser à Yoshua, mais ça, c'est pas. Ce qu'il était Moser, c'est pas Torah.
Non, mais il a reçu.
Au Sinaï, on parle de la Torah orale, tout ça.
Les 40 jours, c'est l'enseignement.
Oui.
Et vous avez dit après, mais il a écrit.
Au fur et à mesure, Akadosh Baruch Hu lui a parlé, quand il lui a parlé dans l'Ohel Moed. Quand Hachem lui parlait, quand tout le monde dit, quand dans la Torah on nous dit, Hachem a parlé à Moshe, Boel Moed, ou bien il a parlé
après
les plaines de Moab. Oui, après les 40 jours.
Ah oui, voilà, c'est ça, après. Donc quand il descend les 40 jours, il ne descend pas avec.
Un Sefer Torah.
Un Sefer Torah.
Non, il descend avec les Louchot.
Avec les Louchot, et.
C'est tout.
Voilà. Plus l'enseignement de la Torah.
Voilà, oui, mais ça, il avait lui. Il est en lui, quoi.
Voilà, c'est ça. Et après,
un canal pour le grand cloud des données. Là,
mais s'il y a toute la Torah au Sinaï, le Dibou sert à quoi après?
Parce que ça, c'est ce qu'il a enseigné à Moshe Rabbeinu, ce que Moshe Rabbeinu devait savoir. Et après, il lui parle, et toujours, c'est les morts. Tu répercutes au Bnei Israël.
Est-ce que ce ne serait pas une répétition?
Mais non, il n'aura pas dit quand, ce qu'Hachem lui a dit quand il est au Sinaï. Il n'a pas fait un débriefing de ce que Hachem lui a raconté au Sinaï.
Mais alors lui, quand il lui dit à Moshe, quand il lui enseigne la Torah, il va lui enseigner des choses qui vont arriver alors.
Il lui a pas enseigné les événements de la Torah. Il lui a enseigné la Torah, c'est-à-dire il lui a enseigné le qu'est-ce que ça veut dire une Mlacha Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire un Etrog, etc. Qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là, on ne sait pas. Il lui a dit tout ça. Mais ensuite, il lui a donné le rouleau de la Torah, il a écrit la Torah, telle que nous l'avons. Alors, certains disent qu'il les a écrits par chiot, par morceau. D'autres disent qu'il a écrit d'un seul tenant à la fin. Ce qui est sûr, c'est que les...
Par exemple, je ne sais pas, l'événement de Yitro qui lui dit, il faut que tu...
Ça a été dit après.
Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Il va bien... Donc il lui dévoile un peu l'avenir.
Non, il ne lui a peut-être pas dit que Yitro allait lui dire ça. Parce que ça, on ne sait pas... Justement, ça c'est quelque chose qu'il va venir en plus. Mais alors, il lui a dit.
D'abord, on ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a dit.
D'abord, on ne sait pas. Mais il lui a donné tout ce dont il avait besoin et toute la Torah orale, etc. Tout ça, il lui a donné. Qu'est-ce qui vous dérange?
Non, je non, rien, moi. Tout est là, quoi. Non, je voulais savoir si c'était, si lui a, en fait, il lui donne des clés, des, tout, pour tout comprendre, mais il lui a pas dit forcément ce qui allait se passer.
Non, probablement que c'était pas nécessaire. Il lui aurait peut-être dit s'il avait besoin de le savoir, mais ou peut-être certaines choses il le savait, mais non, a priori, il sait pas que Korach va se révolter contre lui, il sait pas que. Une chose qu'il sait pas.
Ah oui,
mais... Il les vit, elle se. Ça advient.
Mais quand il écrit cette. Quand, pour celui qui écrit cette info à la fin, est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y a une notion de récit ou pareil? Comment ça fait pour ça? Parce que. Est-ce que c'est un.
C'est bien clair que par exemple, les sifrei Torah qu'il a écrit, qu'il en a donné à chaque tribu, ça c'est à la fin.
Mais ça n'a pas une valeur de. Ça n'a pas une valeur d'enseignement instantané, enfin de discours instantané, là, ce sera
un... Non, mais c'est une forme de. Le Sefer Torah, c'est un. Bon, c'est un texte à partir duquel on va travailler.
C'est-à-dire que même pour le Sefer Torah, Hachem met sa parole dans. Il met sa parole dans la bouche de Moshe.
Oui. Oui. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit sur la fameuse histoire des derniers psukim. Moshe dicte et. Hachem dicte et Moshe il écrit Bedema. Et Moshe il écrit en pleurant sur la mort de Moshe. Il écrit, certains disent, c'est, ou bien il l'a écrit avec ses larmes, ou bien il l'a écrit en pleurant. Et on voit d'ailleurs que, d'après ceux qui disent que Hachem lui a pas dit, il lui a pas dicté les choses, il lui a dicté d'autres mots qui contenaient toutes les lettres avec lesquelles on va pouvoir par la suite écrire la mort de Moshe. Pour que Moshe n'ait pas à écrire qu'il meurt. Et donc, ça veut dire, c'est intéressant, ça veut dire qu'Hachem lui a dicté autre chose. Et comment ça s'est transformé par la suite dans le Sefer Torah, c'est marqué la mort de Moshe. Si ça s'était automatiquement transformé. Les lettres, elles se sont remises dans le bon ordre. Donc il écrit comme un sofer qui écrirait. Mais il ne faut pas penser que la Torah, qui est la nevoie de Moshe, elle est écrite comme les Nevi'im vont écrire leur Sfarim. Shmuel, il va écrire son Sefer. Ce n'est pas comme ça que Moshe écrivait la Torah. Parce qu'eux, ils écrivaient en fonction de ce qu'ils comprenaient. Il avait un message, bon, il le comprenait, il le mettait en forme, etc. Tandis que Moshe, c'était pas ce qu'il comprenait.
Du fait que pour les autres, il y ait eu plus de Mérissat.
Oui. Bien que Moshe Rabbeinu soit très grand, Mikol Makom, Ein Elu Amarot, Imrot Hashem Trufot Be'alil, Rak Dat Moshe Al Dvar Hashem, Ein Mi She'imsor Et Nafsho Leishtabed La'Hashaga Mugbelet Shel Emet, Af Ke She'Adam Eino Choshesh Ta'arovet Sheker O Bilbul Ba'Nevoah, כל זמן שהאמת נתגלתה, נתפסת כהשגה אישית, חלקית, של אמת המוחלטת, אז יורה לעצמו אתר לומר שחפצו ורצונו הוא אותו פן של האמת שהנביא לא זכה לעמוד עליו. C'est-à-dire que les prophètes, peut-être, ils n'avaient pas tout compris de ce qu'Hachem leur a dit. Ils ont écrit ce qu'ils ont compris. Dans les Shemoshé, c'est le Emet absolu qui a été. C'est pas Moshé qui a restitué quelque chose qui lui aurait été donné, qui aurait fait son petit chemin dans sa tête, qu'ensuite il aurait redit à sa manière.
Et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait un autre nom que transmission, parce que dans la transmission, enfin, c'est ce qu'on dit, l'objet de la transmission, on ne connaît pas l'objet de la transmission, c'est-à-dire que dans n'importe quelle autre transmission, celui qu'on utilise le plus usuellement, le mot transmission, ce n'est jamais tout à fait ce que la personne a dit ou voulu dire, et on entend.
Il y a toujours des parasites, il y a toujours des...
En fonction de son histoire, etc., etc. Donc là, lui, il est on n'est pas du tout là-dedans.
Non, il transmet pas à Moshé. Ça parle à travers la bouche de Moshé. Il n'y a pas de transmission, c'est vrai, ça le transperce et c'est modifié par le chemin qui s'aurait fait dans sa tête. Donc, il y aurait évidemment des parasites, des bugs ou des choses comme ça qui viendraient de la circulation de la pensée divine dans la tête de Moshé. Mais c'est pas comme ça. Parce qu'on dit qu'Hachem, d'abord, Hachem parle par la bouche de Moshé. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Moshé, il est complètement transparent là-dedans. Il n'est pas du tout un transmetteur. On dit « Umsara » la Torah orale. Oui, à ce moment-là, il n'est pas dans l'écriture.